Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans ce point de mire, aujourd'hui, nous mettons nos projecteurs sur un événement, une association, un prix, le prix Albert Londres, qui est un prix de grand reportage. Et pour évoquer ce prix et les lauréats de cette année, j'ai le plaisir de recevoir son président, Henri Amouroux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Amouroux, bonjour.
Bonjour, je ne suis plus président depuis quelques jours. J'ai été président pendant 21 ans. Alors bon, j'ai estimé que 21 ans, c'était pas mal. J'ai donc décidé de ne pas continuer. Et c'est Josette Adia qui a été élue lors du voyage à Marseille. Parce que nous sommes partis 2 jours pour Marseille.
Pourquoi Marseille?
Parce qu'Albert Londres est allé... C'est très simple. Marseille, c'était le port de départ et le port d'arrivée d'Albert Londres. Quand il partait pour l'Orient, c'était de Marseille. Et quand il revenait, c'était à Marseille. Et il trouvait une femme. Il a eu beaucoup d'aventures. Bon, certains, les grands reporters ont des aventures. Le temps est... Bon, mais il avait une femme qui était sa fille, Florise, qui a été la cheville ouvrière, ou même la créatrice du prix immédiatement après la mort de son père. Elle l'accompagnait à Marseille, elle venait l'attendre à Marseille, et puis un jour, en 1932...
Il n'est pas arrivé.
Il n'est pas revenu, il n'était plus là.
Le bateau qui revenait de Chine, c'est ça qui a coulé.
Alors il est resté, il a fait 14 articles sur Marseille, il s'est passionné pour Marseille. Il a découvert quelque chose de très important. Il a découvert qu'en changeant de rue, à Marseille, on change de continent.
Ah oui.
On passe de l'Asie à l'Afrique, de l'Afrique à l'Océanie, on change de continent.
Parce qu'on change de quartier,
parce que Marseille, et depuis des siècles,
toujours,
Marseille a rassemblé des tas de populations qui viennent de partout et qui se sont fixées. Et c'est vrai aujourd'hui, il y a 80 000 Arméniens, il y a 120 000 ou 130 000 Maghrébins, il y a des Russes, il y a tout le monde. Alors, il avait écrit 14 articles sur Marseille, il a fait un reportage sur Marseille, ça a fait un livre qui s'appelle Marseille, porte du Sud. Et depuis que je suis président, bon, j'avais décidé qu'on allait se remettre nos pas dans les pas d'Albert Londres. Nous sommes allés en Guyane, nous sommes allés en Chine, nous sommes allés à Moscou, nous sommes allés à Reims. C'était très émouvant à Reims. Parce que à Reims, c'est là, en 14, où, écrivant pour Le Matin, Albert Londres a signé son premier article. Aujourd'hui, on donne la signature dès que vous arrivez. Hein, ça. Vous arrivez le lundi, vous signez le jeudi. C'était pas vrai du tout en 1914.
Il y avait une hiérarchie beaucoup plus stricte.
Même c'était pas vrai quand j'étais jeune journaliste. La signature était une conquête, ce n'était pas un droit. Maintenant, il n'y a plus que des droits, il n'y a plus de devoirs. Bon, on écrit n'importe quoi, on a le droit de signer n'importe quoi.
Donc, premier article, Reims.
Reims, en 14, et nous sommes allés à Reims. Et le premier article a été lu dans la cathédrale de Reims par un artiste, un comédien, qui a lu les deux premiers articles d'Albert Londres. C'était très émouvant. Alors l'archevêque a parlé, très bien, moi j'ai parlé moins bien, parce que d'abord, on est là dans la cathédrale, et on se dit, là, Jeanne d'Arc a été là.
Oui, oui,
tous les rois de France...
étaient sacrés à Reims, bien sûr.
Non, à l'exception d'un...
Il y en a quelques-uns, oui.
Non, hein, Louis XVIII, hein, ont été sacrés à Reims. Alors... ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Et donc, nous sommes allés à Marseille le 18 et le 19, où ça a été merveilleusement organisé, grâce à un confrère marseillais, qui préside le club de la presse, qui avait organisé une semaine de grands reportages, et le 18 et le 19, c'était le prix Albert Londres, naturellement, à la fois à côté, mais aussi aidé par les confrères de Marseille, une presse considérable. Le maire, M. Godin, sénateur-maire, merveilleusement et compréhensif, nous aidant.
Dynamique, comme toujours.
Oui, dynamique. Et puis alors, deux choix, nos choix ont été formidables. Deux journalistes, remarquable, parce que nous avons deux prix.
Il y a deux prix, précisons, un prix d'écrit.
Un prix d'écrit et un prix télévisuel. Le prix télévisuel, nous l'avons depuis 1985, c'est-à-dire ma première année de présidence. Et c'est Henri de Turenne qui a eu l'idée de créer. Il m'a dit, Henri, il faut créer un prix de l'audiovisuel. J'ai dit, d'accord. Et nous avons créé un prix de l'audiovisuel depuis 1985. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir deux jeunes femmes, 31 ans, 32 ans. D'abord, de plus en plus, il faut le savoir, ce sont les femmes qui vont à la guerre, qui vont sur les coups durs, les hommes restant dans les bureaux et les envoyant. Les hommes sont patrons, ils envoient les femmes comme ça à la guerre.
Nous avons eu sur le terrain.
Nous avons eu, pour l'écrit, elle était à Téhéran, Delphine Minoui, qui écrit, qui est freelance, mais qui écrit dans le Figaro, mais dans d'autres journaux également. Or, nous avons voté dans le train. Nous avons voté dans le train qui nous conduisait à Marseille. Bon, il y avait le train, il y avait deux étages. Le premier étage, enfin le sous-sol si vous voulez, le premier étage était réservé au jury, strictement clos, fermé, personne ne pouvait rentrer. Et puis l'étage supérieur, c'était pour les membres de l'association, il y avait 45 ou 50 personnes. Ceux et celles qui ne faisaient pas partie du jury. Et puis, nous avons voté, on lui a immédiatement téléphoné, nous nous méfions, on s'était dit, elle est à Téhéran, comment va-t-elle revenir? Nous lui avons pris un billet d'avion, parce qu'elle était des trois ou quatre qui pouvaient avoir le prix, nous lui avons téléphoné, elle a pris l'avion, elle est arrivée à Paris, elle est arrivée à Marseille, une demi-heure avant la remise du prix. Elle est arrivée pour aller à la mairie de Marseille, une demi-heure avant la remise du prix.
Bien chronométré.
Et puis alors, pour l'audiovisuel, nous avions eu une merveilleuse aussi, Manon Loiseau, qui a fait un très très beau reportage, qui a fait plusieurs... Elle a été deux fois ou trois fois déjà, elle était seconde, elle avait beaucoup de voix, on était sûr qu'elle aurait le prix un jour ou l'autre. Elle a fait un reportage très bon qui s'appelle... Le malheur d'être femme sur les femmes en Inde, sur les femmes qui tuent leurs filles en Chine, sur le génocide, si j'ose dire, des filles. Parce que la fille, ça coûte cher, c'est mal vu, un garçon, ça peut travailler. Elle a fait un très très bon reportage. Et donc nous avons eu deux jeunes femmes, très bien, donc j'avais remis le prix, annoncé le prix, et le prix a été remis par les lauréats de l'année précédente. Ça s'est déroulé à Marseille d'une façon remarquable, très dense, beaucoup de manifestations, une presse considérable.
Vous avez fait beaucoup de discours ?
9.
Henri Amouroux a fait 9 discours.
Oui, 9, parce que, bon, mais maintenant j'en ferai plus, enfin, plus comme ça. Et alors, voilà, c'était passionnant, assombri à notre tour par l'annonce de la mort de Christophe de Pomfilly.
Ah, Christophe de Pomfilly, qui avait été lauréat.
Okay, oui,
le premier lauréat pour l'audiovisuel,
qui était un homme que j'aimais beaucoup, je lui avais téléphoné 15 jours avant.
Il s'était beaucoup investi sur l'Afghanistan,
n'est-ce
pas ? Il
est mort de son investissement.
Vous
croyez ? Il est mort en partie, il est mort de sa passion. Parce que, il y en a deux ou trois autres que cela guette. Pas la mort, forcément.
Mais trop de passion ?
Oui, il y en a deux, j'en vois deux ou trois autres, je ne citerai pas les noms. Une jeune femme. Quelle était la passion de Pomfilly ? C'était l'Afghanistan.
Massoud, il a fait des films sur Massoud, merveilleux.
Quand il en faisait quand personne n'en parlait. En 85, nous avons couronné le film de Pomfilly et personne n'en parlait. Et puis on n'en a pas parlé jusqu'au moment où il y a eu l'attentat contre les Tours. Et avant, ça a été précédé par l'attentat contre Massoud, n'est-ce pas ? Alors, à ce moment-là, Pomfilly est devenu une vedette.
C'est peut-être parce que personne n'en parlait qu'il était malheureux.
Non, il était malheureux justement. Parce que personne n'en parlait plus. Et pour lui, c'était devenu le sujet principal,
un combat.
Lorsqu'on rencontrait Pomfilly, vous parlez tout de suite de l'Afghanistan, et vous parlez de ça, bon, c'était comme ça. Bon, sa passion, qui est en partie, à mon avis, responsable de sa mort.
Et vous pensez que c'est un handicap ou un défaut pour un grand reporter ? On ne doit pas trop s'investir ?
Il y en a beaucoup qui s'investissent. Si vous, enfin, sauf si vous y allez comme avec un élastique. Toc, toc. Hein. Vous allez pour 3 jours, vous revenez pour 3 jours après. C'est le problème de la vitesse. L'avion a tout transformé. Vous partez pour 3 jours, ou avant, vous partiez pour 3 mois. Moi, je sais pas, quand j'allais au Vietnam, tous les autres aussi, on allait au Vietnam, c'était pas pour 3 jours, c'était pour un mois et demi. Il y avait l'avion déjà, mais enfin, quand même, on y allait, quand même, il fallait déjà 36 heures pour y aller, 36 heures pour revenir, enfin bref, c'était pas pour 3 jours, pas pour 4 jours. Maintenant, c'est pour 3 jours, 4 jours, n'est-ce pas?
Parce que les journaux n'investissent plus pour des grands reportages.
Si, pour investir. Mais vous avez l'avion, vous avez le téléphone satellitaire, vous avez tout à changer. Mais il y a toujours des hommes et des femmes de passion. Moi, j'en connais. Je vais citer un exemple. Anne Niva, qui s'est investi, qui a 32 ans, 33 ans, qui s'est investi pour la Tchétchénie et l'Irak. Elle était en Irak. Elle a pris des risques considérables. J'écoutais ses émissions. Elle vivait chez des Irakiens. Elle partageait la vie des Irakiens. Elle parle d'ailleurs la langue. Elle parle. Bon, elle vivait comme une Irakienne, habillée comme une Irakienne, avec des risques que cela. Non, non, il y a beaucoup, beaucoup. Celle que nous avons, Delphine Minoui, elle fait l'Iran. Et elle fait l'Irak aussi. Je lui ai dit. Combien de mètres pouvez-vous faire sans être escorté, sans être protégé? Elle m'a dit pas 500 mètres, pas 500 mètres.
Non, Henri Amouroux, est-ce que ça vaut la peine de prendre tous ces risques pour rapporter? Alors, dites-nous.
C'est pas simplement pour rapporter. Bon, on peut faire ça depuis la guerre, on peut faire ça depuis. Moi, j'ai vu ça en Indochine. Hein. On peut faire ça depuis un grand hôtel à 100 km ou à 500 km et en ayant de très bonnes informations. Vous voyez les parachutistes, je parle de l'Indochine, hein, la guerre d'Indochine, 52, 51, 52, 53, 54. Vous voyez les parachutistes, vous voyez les gens qui préparent les parachutages, c'est passionnant les gens qui préparent les parachutages, et vous voyez également la Légion, et vous allez dans les boîtes de nuit, ou les bordels si vous voulez, hein. Vous avez
mais ça, c'est la vie à 100 km derrière le front.
500.
Ou 500 km derrière le front.
400.
Alors, les grands reporters qui vont sur le front.
Alors, il y a plusieurs types. Hein. Il y a ceux qui prennent des risques considérables qui se font tuer. Généralement, Perrault, par exemple, Perrault, qui est mort à Dien Bien Phu, qui a été tué à Dien Bien Phu, qui est disparu à Dien Bien Phu, mais il a été tué. Schoenderfer était un homme qui est un homme admirable, courageux. Alors lui, ils y sont tout le temps, ils sont engagés, ils y sont. Bon, Perrault, qui était photographe, me disait, il a pris des photos d'assaut viet à 30 mètres, 50 mètres, c'était fabuleux. Vous comprenez, c'était fabuleux. C'était formidable. Bon, et puis...
Alors, on en revient à la question.
Roi. J'ai retrouvé Roi lors de l'expédition de Port Saïd. J'étais dans l'avion PC du colonel Gracieux qui dirigeait l'opération. On est resté 6 heures, 7 heures, avec les Égyptiens qui tiraient dessus, mais enfin, pas très bien. Mais enfin, et Roi, je retrouve Roi le lendemain, qui était à Match, parce que enfin, je reviens avec un avion, naturellement, de Chypre le lendemain. Et je vois un roi qui avait pris une jeep égyptienne. Il y en avait des kilos, des dizaines, des centaines de jeeps égyptiennes. Il avait mis un petit canon derrière. Il y en avait partout. Et il avait mis le numéro de Match, téléphone de Match. Et il avait un journaliste américain. Je lui dis, où vas-tu? Il me dit, je vais rejoindre les lignes israéliennes. Parce que vous vous souvenez, c'est la guerre où il y avait les Israéliens, les Anglais, les Français, puis les Égyptiens. Je lui dis, tu es dingue, tu vas te faire tuer. Les Anglais et les Français étaient avec les Français. Et les Israéliens, il y a les Égyptiens. Tu vas te faire descendre, c'est fatal. Eh ben, il a été tué dans l'après-midi. Et l'Américain aussi. Alors, il y a ça. Des gens qui...
Bon, qui prennent des risques.
Moi, je suis pour en prendre. Il faut en prendre. Il faut en prendre pour deux raisons. Il faut en prendre pour les autres. Ceux dont on parle. Il n'est pas admissible que ceux dont on parle, on les voit uniquement au bistrot. Pas admissible. Si vous parlez d'une unité, vous êtes dans une unité. Hein, vous suivez, y a des risques, il y a des risques.
C'est une question de déontologie journalistique, là, vraiment.
Oui, enfin, c'est une question d'honnêteté humaine.
Oui.
Et donc, pour eux et pour soi. Vous ne pouvez pas écrire un truc, voyons, si vous ne le sentez pas.
bien sûr.
J'ai participé à une sortie à Dien Bien Phu, avant la grande attaque, mais en fait ça allait déjà très mal, j'ai demandé à participer à une sortie. Et les Viennes nous ont tiré dessus. J'ai ramené un blessé, je l'ai aidé à marcher, il avait 2 balles, une dans la jambe et une dans le bras. C'était un Italien d'une unité de la Légion. Et puis, on a vu les gens qui ont été tués, avec tout de suite... Vous pouvez pas raconter, si vous voyez pas sur les ailes du nez des morts, tout de suite des mouches qui rappliquent. Hein, on peut pas raconter. Donc, pour soi, pour les autres, d'abord pour soi. Bien sûr, mais on prend des risques, on se dit c'est idiot. Quand on regarde après à côté de quoi on est passé au Vietnam.
Alors on se dit pourquoi ? Vous, Henri Amouroux, vous aviez une famille. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sauter sur Dien Bien Phu ?
J'ai pas sauté sur Dien Bien Phu, moi, non, pas du tout. J'étais à Dien Bien Phu. J'ai fait un bombardement en piqué sur des positions vietmines. Depuis, j'ai été catapulté depuis un porte-avions. Je suis le seul journaliste catapulté.
Catapulté.
En faisant une opération. Vous êtes sur le porte-avions, vous êtes le seul journaliste. Maintenant, il y a des tas de gens. On est très nombreux.
Une horde.
C'était salopant. Le lendemain, il devait y avoir une opération de bombardement sur des positions vietmines, sur un pont d'ailleurs. Je dis à l'amiral, est-ce que je peux y aller ? Il dit oui, vous êtes fichu.
Ben oui, on ne peut plus faire marche arrière, hein. on ne peut pas se déjuger.
On peut souhaiter que le lendemain, naturellement, il y ait de la brume, que le décollage soit impossible, qu'on a sauvé l'honneur. Mais s'il n'y a pas de brume, il n'y avait pas de brume. Alors, moi, j'ai passé une mauvaise nuit, j'avais quatre enfants, je me suis dit, tu es complètement idiot, tes lecteurs s'en foutent, t'es perdument, pourquoi y vas-tu ? Il y a un risque, évidemment, parce que d'abord, il n'y a qu'un moteur à ces avions, puis le catapultage est dur, etc. Mais, on a peur avant, pour moi en tout cas, et on a moins peur dans l'action. Je crois que si on fait ce métier, il faut l'honorer. Des gens merveilleux comme Lartigui, comme Turenne, comme Jean-Paul Marie, comme des femmes comme Anniva, comme beaucoup. Vous savez, on prit des risques considérables. Schoenderfer, qui est à l'Académie des Beaux-Arts, qui est un confrère qui a vécu tout Dien Bien Phu, et qui est arrivé avec l'avion, leur avion s'est posé, il y avait 4 journalistes. Il y a eu un tué et un qui a perdu une jambe. Ils étaient 4, il en est resté un, sans rien, Schoenderfer. Puisqu'il était avec Roy, avec Perrault, et Perrault a été tué. Non, il a été fait prisonnier, il a vécu... Vous savez, on le fait pour ceux avec qui on est, pour pas bidonner. Hein. Moi, j'en ai connu qui bidonnaient, j'en ai connu. J'ai accompagné les Israéliens sur le canal de Suez, sur le canal de Suez. Je rentre à Tel Aviv pour téléphoner mon papier, j'entends un confrère, son nom n'a pas d'importance, un confrère qui faisait un papier terrible, mais terrible. Je me disais, mais tu as tout loupé, tu n'as rien vu. Or, il n'y avait qu'une route. Il était là 1 heure avant moi, ou 3 quarts d'heure avant moi, il est rentré 3 quarts d'heure avant moi pour téléphoner son papier, parce qu'en Israël, en taxi, on pouvait tout faire, c'est tout petit. Et bidonné totalement, je lui dis après, mais où étais-tu ? On était exactement au même endroit. Il avait vu des combats, il avait vu Dayan qui n'y était pas, il avait vu... Bon, on peut tout faire. Hein.
On peut tout faire, oui, mais il y en a beaucoup qui ne font pas ça dans le métier.
Il y en a beaucoup. Et au prix Albert Londres, je vous jure qu'il n'y a pas de bidonnage.
Absolument.
Il n'y a pas de bidonnage. On peut tout faire, mais on doit d'abord respecter son métier. D'abord respecter. Moi, j'ai une grande admiration pour les photographes. Parce que les photographes, les caméramans, c'est eux qui vont le plus loin.
Ah, on ne peut pas inventer.
J'ai plus que ça maintenant. On ne peut pas inventer. Mais en revanche, dans une bagarre, dans une situation de guerre, c'est mieux d'avoir une caméra ou un appareil photo que de n'avoir que ça. Parce que quand vous avez un fusil, un truc, une arme quelconque, mais quand vous n'avez rien que ça... Il n'y a rien pour vous occuper.
Mais Henri Amouroux, le grand reportage, ce n'est pas uniquement sur les fronts de guerre. Essentiellement sur les fronts de guerre actuellement. Actuellement, je dis.
D'abord, parce qu'il y a tout le temps la guerre.
Malheureusement,
vous prenez le bassin de la Méditerranée. Hein. Depuis le début du monde, il y a la guerre tout le temps. Il n'y a pas eu 5 ans sans guerre. C'est comme ça.
Néanmoins, est-ce que vous n'observez pas que dans les journaux, notamment dans la presse écrite, il y a de moins en moins de grands reporters, de grands reportages ?
Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que la politique et les hommes politiques ont pris la manie de commenter. Parce que ce sont les chefs d'État maintenant qui remplacent les ministres des Affaires étrangères et les ambassadeurs. Ils connaissent moins bien les problèmes, évidemment. Évidemment, parce que Pic de la Mirandole est mort depuis longtemps.
Oui.
Bon, alors aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'au temps de Pic de la Mirandole. Hein. Bon, alors, ils se téléphonent, ils règlent les problèmes, ils ne les règlent pas. Il y a aussi, contre le grand reportage, les tour opérateurs. Maintenant, on fait, je mets le mot entre guillemets, on fait l'Égypte en 3 jours. On fait
mais
la
quand
France...
on est touriste, pas quand on est reporter.
Non, mais quand on est touriste. Mais on croit avoir fait. Les Japonais qui viennent, ils font...
Le tour de l'Europe en 15 jours.
En 8 jours, en 10 jours. Un jour l'Italie, un jour la France, un jour... C'est de la rigolade, vous comprenez. Alors, mais ils croient savoir, avant du temps d'Albert Londres, ils apprenaient maintenant à travers la télévision... Et surtout, cette méthode de circuler en 8 jours, on croit savoir, on ne sait pas.
Et donc les gens deviennent moins curieux ?
Je ne sais pas. Et puis,
moins intéressés ?
Il faut dire aussi la vérité. La télévision a repoussé vers des heures de moindre écoute les choses les plus sérieuses.
Néanmoins, on voit bien à la télévision que les magazines de reportage sont très suivis.
Oui, bien sûr. Mais ils sont repoussés dans le temps. Il y en a très bons. Nous avons Lise Blanchet au jury. Lise Blanchet Thalassa, qui a eu le prix pour Thalassa, pour ce qu'elle avait fait à Thalassa. Nous avons de très grands, nous avons Brusigny, qui dirige la 3 maintenant. Nous avons des confrères très remarquables de la télévision. Turenne, avec les grandes batailles, c'était quelqu'un de remarquable. C'est quelqu'un de remarquable. Nous avons tous nos confrères de l'audiovisuel, qui sont tous de très grands journalistes, et qui font, et nous en avons à Beyrouth, qui ont pris des risques considérables et qui ont été blessés, qui prennent des risques. Ils le font, parce qu'avec la caméra, vous ne pouvez pas truquer, vous ne pouvez pas être à 100 km. Ils le font, parce qu'avec l'appareil photo, vous ne pouvez pas truquer. Voilà, vous comprenez ?
Alors Henri Amouroux, vous êtes maintenant devenu président d'honneur du prix Albert Londres, mais vous restez membre du jury. Ça va vous amuser aussi de continuer à regarder.
Je suis toujours membre du jury. On est membre du jury si on démissionne ou si on meurt. Mais c'est pas parce que j'ai été président pendant 21 ans que j'ai plus le droit d'être membre du jury.
Alors vous allez examiner combien de reportages. Ça représente quel travail quand on est membre du jury ?
Ça représente beaucoup de travail quand on le fait sérieusement. Parce que ça représente comme ça de papier à lire.
Là, les 50 centimètres.
Les auditeurs ne voient pas. Voilà, 50 centimètres minimum. Hein. Et puis, 25 ou 30 cassettes.
Oui. On y passe beaucoup de temps.
Alors, nous avons un comité de présélection, auquel j'étais toujours en tant que président, auquel j'irai, je pense, toujours. Et après, nous retenons 5 ou 6 candidats et nous envoyons les cassettes à tout le monde. Chacun voyant 2 cassettes, si vous voulez. C'est-à-dire, si je vois une cassette, un des confrères voit la même cassette que moi, pour qu'au moment du verdict, il y en ait 2 qui aient vu la même cassette.
D'accord, tout le monde ne regarde pas les 5 ou 6.
Si, retenu. Et après les 5, tout le monde les voit. Les 5 ou 6, tout le monde les voit. Nous votons au bulletin secret, bien sûr.
Alors, pour un grand reporter, c'est un prestige de recevoir le prix Albert Londres.
Je vous crois, oui. Je peux vous dire. Quand nous avons annoncé à Téhéran, à Delphine Minoui, qu'elle avait le prix Albert Londres, elle hoquetait. Elle avait perdu le souffle. Et moi, j'en ai connu qui sont venus depuis... Nous étions en Guyane.
Oui, à cause du bagne sur lequel a enquêté Albert Londres.
Et il y en a à qui nous avons annoncé, ils ont pris l'avion pour venir. Ils étaient au Champagne. Dès qu'ils ont appris leur prix, ils ont vécu au Champagne jusqu'à l'arrivée en Guyane. Et nous avons trouvé... Au bar des palmistes, hein, là, ils continuaient. Ils étaient tellement heureux. Et ils en parlent tout le temps. Et lorsqu'ils font un livre, la 4e de couverture, ils mettent toujours...
Toujours prix
Albert Londres. C'est le prix le plus prestigieux. Et que lorsqu'il y a un décès, et qu'il faut élire quelqu'un au jury, nous avons 6 ou 7 candidats qui ont eu le prix Albert Londres. Non, c'est un prix... Je vais vous dire, dans la mesure où il n'y a pas de bidonnage. Dans la mesure,
plus on est exigeant, plus la qualité est respectée.
La première mesure que j'ai prise en arrivant, il y a 21 ans, 85, 22 ans, première mesure que j'ai prise, un seul pouvoir. Le président n'a pas de voix prépondérante et un seul pouvoir. Donc, on pouvait avoir deux ou trois pouvoirs. Si vous avez quatre pouvoirs, vous faites élection, voyons.
Bien sûr.
Bon, un seul pouvoir. Pas de voix prépondérante pour le président et une grande honnêteté, une grande rigueur. Et je vais vous dire, je vais tout vous dire. J'ai téléphoné à Christophe de Ponfilly, puisque je veux évoquer sa mémoire, c'était un homme remarquable. Il y a eu un débat sur la qualité de deux grands reporters. Et j'ai téléphoné à Christophe, et je lui dis, Christophe, voilà, il y a un tel qui est en ballotage, on me dit que non. Qu'en pensez-vous? Je lui dis, j'ai une totale confiance en vous, j'ai une grande estime pour vous, j'ai une totale confiance. Il m'a dit, Henri, non, non. Parce que, vous comprenez, il y a aussi autre chose que j'ai créé. Nous faisons venir les lauréats de l'année précédente et ils ont exactement les mêmes droits que les membres du jury. Ils votent, ils participent au débat, ils sont comme les autres membres du jury. Et c'est très important, parce que nous, nous sommes âgés, beaucoup au jury. Il y en a des jeunes, bien entendu. Il y en a qui sont toujours dans le coup, bien entendu. Mais il y en a qui sont plus dans le coup, qui sont plus sur le terrain. Or, en faisant venir des jeunes que nous avons couronnés l'année précédente, nous avons le sang. Ils vivent avec eux. Ce sont leurs confrères. Ils vivent avec eux. Ils peuvent dire oui, non. Oui, oui, non, mais ils bidonnent. Mais c'est pas sérieux. Vous comprenez? C'est ça. Il faut être rigoureux en tout. On peut se tromper, on se trompe. On n'a pas le droit de tromper. On n'a pas le droit de tromper. Qu'on écrive un reportage, qu'on écrive un livre, on n'a pas le droit de tromper. On peut se tromper, mais on n'a pas le droit de tromper.
Voilà, ce sont sur ces paroles d'Henri Amouroux, à la fois le journaliste, le grand directeur de journaux qu'il fut, et l'académicien et l'historien, bien sûr, que vous connaissez, que nous allons terminer cette émission en vous remerciant, Henri Amouroux, et en espérant vous recevoir encore une fois à Canal Académie.
Oui, ça m'arrivera certainement, si vous m'invitez.
On n'y manquera certainement pas. À bientôt. Merci infiniment.